Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. 37 personnes tuées en 3 jours à Babilaba Kaiko dans le territoire de Beni. C'est le bilan des nouvelles attaques des EDF dans cette partie du Nord Kivu. La société civile locale sollicite des opérations militaires conjointes par des CUPDF dans la région. Il n'y aura pas d'électricité dès lundi à Kalemie pendant 10 jours, annonce la SNEL. Motif, des travaux seront effectués à la centrale de Bendera pour réparer une panne, mais la SNEL demande à la régie des eaux, aux hôpitaux et aux privés de prendre des dispositions puisque les groupes électrogènes qui pouvaient les secourir sont en panne. Et puis, l'invité de ce midi, Paul Pakou, inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 2, qui comprend Kabalo, Manono et Kongolo, y dresse le bilan de l'année scolaire 2023-2024 dans son secteur. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce nouveau bilan des récentes attaques des rebelles ADF à Babilaba Kaiko, localité du secteur de Beni Mbau dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Le bilan est passé de 3 à 37 personnes tuées en l'espace de 3 jours. La société civile locale indique que des dégâts matériels importants ont été également enregistrés. Elle sollicite les opérations militaires conjointes par des CUPDF dans la région. André Kitenge nous en dit plus.
Les attaques à répétition des rebelles des ADF ont été perpétrées dans plusieurs villages de la localité de Babilaba Kaiko, dans le groupement de Batangimbao depuis 3 jours. Selon le président de la société civile locale, plusieurs alertes sur la présence de ces rebelles des ADF dans la région ont été faites, mais qui n'ont pas été prises en compte par les autorités militaires. En l'espace de 3 jours, 37 personnes ont été tuées, comme l'affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Le bilan des attaques des ADF NAL du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2024 est passé de 3 personnes à 37 personnes tuées, 9 maisons incendiées, 7 motos incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Aux autorités militaires, nous sollicitons les opérations conjointes et faites de ces IPDF dans le secteur de Benimbao, particulièrement dans le groupement de Batangimbao.
Pour cet acteur de la société civile, il s'agit là d'un bilan provisoire car plusieurs autres personnes ont été enlevées par les assaillants et ne répondent pas aux appels jusqu'à ce samedi matin. L'armée n'a pas encore donné sa version des faits. Néanmoins, les soldats des FRDC déployés dans la région se sont lancés à la poursuite de ces rebelles qui se sont dirigés vers l'ouest de la route nationale numéro 4, indique la société civile locale. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, le gouverneur des provinces met en garde tous les acteurs politiques et leaders communautaires qui veulent servir de pont aux rebelles du M23 pour entrer en Ituri. Dans une déclaration cette semaine à la presse à Bunia, le général Johnny Luboyanka Chama dénonce le recrutement qui s'est fait par certains fils de l'Ituri pour le compte de ce groupe armé. Cela pour saper les efforts déjà réalisés pour la restauration de la paix dans plusieurs entités et le développement de cette province. Il ajoute que les auteurs de ces actes vont y répondre devant la justice. Le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama est au micro de Isaac Remoyope.
En ce qui concerne le M23, il y a des hommes prétendus leaders qui sont en train de recruter ici et qui sont entrés en contact avec le M23 pour l'amener ici. Regardez d'où nous sommes venus. Nous avions presque toute l'Ituri qui était en insécurité. Mais au jour d'aujourd'hui, sur les 5 territoires, nous avons 4 territoires qui sont plus ou moins sécurisés. Nous n'avons que le Djougou. Et même Djougou seulement dans la zone minière. Parce que Drodo et autres là-bas, les marchés ont été rouverts, les gens se côtoient. Regardez la ville de Bunia, comment est-ce qu'elle s'est développée. Nous, en tant que gouvernement, nous avons offert des infrastructures, mais nous n'avons pas tout fait. Toutes les constructions qui poussent ici, ce sont les Ituriens eux-mêmes qui ont construit. Allons-nous casser tout ça? Parce qu'il y a des charlatans qui veulent aller chercher, n'est-ce pas, l'ennemi du peuple pour venir casser tout ça. Rappelez-vous, nous venons de loin en Ituri. Il y a eu des tueries et des tueries. Il y a une grande différence entre le Nord Kivu et l'Ituri. Ici, dès que vous acceptez qu'il y ait l'insécurité, Dieu seul sait. Et c'est lui qui va faire ça, il va en répondre.
Pour rappel, 2 acteurs politiques ont été arrêtés la semaine dernière par le service de renseignement civil et transférés à Kinshasa pour raison d'enquête. Direction la province du Tanganyika. Je vous l'ai dit dans les titres, la ville de Kalemie sera privée d'énergie électrique à partir du lundi 22 juillet, cela durant 10 jours. Et pour cause, des travaux seront effectués à la centrale de Bendera pour la réparation d'une pièce de la turbines. Mais quelles sont les dispositions prises par la SNEL pour alimenter les points stratégiques de la ville de Kalemi pendant cette période, Paula Munanga?
Au cours de la conférence des presse de ce vendredi à Kalemi, le chef des divisions production et transport Bendera annonce que la SNEL a deux groupes électrogènes dans la ville de Kalemi. Et en cas d'interruption de l'énergie électrique, la société a l'habitude de démarrer les deux groupes électrogènes pour alimenter les points stratégiques de la ville comme les hôpitaux, les morgues, les gouvernorats, la régie des eaux. Marcel Sagalikaite souligne malheureusement que ces groupes électrogènes sont en panne. Ainsi, il demande aux partenaires de la SNEL de prendre des dispositions pour faire face à ces problèmes.
Il y a des notes qu'on a écrites et envoyées à tous nos clients potentiels. Donc, l'hôpital général qui a une morgue doit prendre les dispositions d'avoir un groupe électrogène pour pouvoir alimenter la morgue. Pendant ce temps, la régie des eaux doit prendre aussi ses dispositions pendant ces 10 jours pour continuer à fournir de l'eau à la population.
À la régie des eaux Kalemi, les responsables annoncent que le groupe électrogène dont dispose la société est aussi en panne. Pour l'instant, aucune solution de rechange n'est encore envisageable pour alimenter la population en eau potable. Toutefois, les responsables disent avoir déjà pris langue avec les autorités de la province à ce sujet. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis, le président Félix-Antoine Tshisekedi engage le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer la criminalité dans les villes du pays. Il l'a dit hier lors du 6e conseil des ministres du gouvernement souminois à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement, de nombreux cas de criminalité sont rapportés à travers les villes et localités, perturbant ainsi la quiétude des citoyens. Des biens des habitants sont confisqués et des propriétaires parfois tués ou blessés. Ces bandits sont souvent armés et certains sont interpellés et mis à la disposition de la justice, mais d'autres continuent à opérer en toute quiétude. À ce phénomène s'ajoutent les phénomènes Kuluna, un banditisme urbain qui crée la panique au sein de la population dans certaines villes, notamment Kinshasa. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, extrait proposé par Alain Rungmushinji.
Le président de la République est préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes de notre pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses axes environnants, Lubumbashi, Kolwezi, Bunia, Goma, Beni, Butembo, Kisangani. Il se développe dans ces villes un banditisme urbain, avec le phénomène Kuluna allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquage de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes de délinquance juvénile. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sous la supervision de la Première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens.
Dans l'actualité aussi, le nouveau gouverneur de la province du Maniema a pris officiellement ses fonctions hier à Kindu. La cérémonie officielle de remise et reprise s'est déroulée au siège du gouvernorat de province. Occasion pour Moussa Kabwankubi Moïse de mettre un accent particulier sur ses priorités, notamment la sécurité et les infrastructures routières. Le nouveau gouverneur du Maniema s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de prendre nos fonctions de gouverneur du Maniema. Pour nous, la sécurité de la population du Maniema constitue une priorité des priorités. Nous aurons une première réunion avec le conseil provincial de sécurité afin qu'il nous propose des mesures idoines pour résoudre la situation de la sécurité. Nous avons insisté sur les infrastructures routières parce qu'elles constituent le point d'ancrage pour le désenclavement de la province du Maniema. Et ce désenclavement passe par la réhabilitation des routes, aussi bien des dessertes agricoles d'intérêt provincial local comme d'intérêt national. Le dernier message, c'est un message d'espoir. Nous sommes venus travailler, nous avons déjà un plan. Nous rappelons qu'avant 0h, notre gouvernement sera publié. Et là, nous venons de signer notre première lettre demandant au président de l'Assemblée provinciale d'ouvrir une session extraordinaire afin de nous permettre de présenter notre programme et notre gouvernement le mardi à l'Assemblée provinciale.
Au Congo central aussi, le nouveau gouverneur a présenté son programme d'action hier vendredi au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale à Matadi. Ce programme, adopté par les députés provinciaux, est structuré en 5 piliers, 27 stratégies sectorielles d'activité, 52 objectifs spécifiques à atteindre par la mise en œuvre des 205 actions exprimées par les indicateurs de suivi. Ceci prend en compte presque tous les secteurs de la vie de la province en tenant compte de l'équilibre entre les 10 territoires. Il est notamment le renforcement de la gouvernance, la consolidation de la paix, le développement social et la revalorisation des ressources humaines. À en croire Grâce Nkwanga Bilolo, son discours programme est porteur d'une vision de l'émergence du Congo central. D'autres détails avec Nana Plurish Mambo.
Le gouverneur Grâce Bilolo dit s'inspirer d'abord de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, contenue dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennat, ensuite du programme de développement local des 145 territoires et enfin du plan de développement provincial. Selon les numéros 1 de la province du Congo central, les différents projets, les actions et la mise en œuvre du programme sont estimés à plus de 4 688 milliards répartis par piliers, stratégies sectorielles et actions. Ces fonds proviendront d'abord des acquis de la province avec 60% et ensuite les 40% à rechercher auprès des partenaires extérieurs. Des efforts seront fournis pour la maximisation des recettes, la lutte contre le coulage des recettes, la fraude et les lobbying visant à accroître la quotité de la province ainsi que l'apport des partenaires techniques et financiers. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la publication des résultats de la session 2024 de l'examen d'État interviendra le mercredi 24 juillet, annonce faite hier vendredi à Kinshasa par l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans une vidéo publiée sur X. Jacques Audia affirme que toutes les malles sont déjà arrivées à Kinshasa et que les opérations de correction se déroulent bien. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongouchinge.
Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflits armés ou conflits communautaires. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité et de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice.
Actualité internationale. Le gouvernement centrafricain accuse le ressortissant belge portugais Martin-Joseph Figueira d'espionnage au profit de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis. C'est au cours d'un point de presse tenu à la présidence de la République que le conseiller du président Archange Touadéra a tenu à clarifier les faits sur la situation du membre de l'ONG américaine FHI 360. Cela fait 2 mois qu'il est arrêté, accusé de financement des groupes terroristes, de complot, d'espionnage et d'incitation à la haine, alors que les organisation internationale appelle à sa libération, jugeant ces allégations de non fondées. Le gouvernement assure que l'incriminé fera face à la justice et s'il est reconnu coupable, Joseph Figueira risque la prison à perpétuité. Et puis, 8 athlètes palestiniens vont participer aux Jeux olympiques de Paris à partir du 26 juillet prochain. Alors que la guerre fait rage à Gaza, leur présence va servir de tribune pour sensibiliser l'opinion publique sur les combats, selon les responsables palestiniens. Après 9 mois de conflit, la venue de ces sportifs qui s'entraînent dans des conditions précaires relève pratiquement du miracle.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Paul Pakou, inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 2, qui regroupe les territoires de Kabalo, Manono et Kongolo. Dans cet entretien avec Paula Munanga, Paul Pakou dresse le bilan de l'année scolaire 2023-2024 dans son secteur.
Monsieur l'inspecteur principal provincial Paul Pakou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment s'est déroulée l'année scolaire 2023-2024 dans la province éducationnelle Tanganyika 2 qui regroupe les territoires de Kabalo, Kongolo et Manono?
L'année scolaire 2023-2024 s'est déroulée dans le respect du calendrier. Ici, je dois dire que les 222 jours de classe ont été atteints dans la plupart de nos écoles. Grâce, n'est-ce pas, au savoir-faire de la police pédagogique à ma disposition. Et quand je parle de la police pédagogique, je sous-entends la présence des inspecteurs qui sont disséminés ici et là. Et j'en ai ici, dans les Tanganyika 2, 257 composés des hommes et des femmes capables de faire respecter les instructions.
Et quels sont les points positifs que vous avez pu remarquer au cours de cette année scolaire?
Les points positifs qui ont marqué l'année scolaire qui vient de s'achever sont innombrables. Mais pour l'économie du temps et d'énergie, je vais épingler certains d'entre eux. En commençant par la gratuité de l'enseignement primaire dans le secteur public, qui n'était pas un slogan creux. Beaucoup d'enfants ont renoué avec l'école et le nombre de filles a augmenté sensiblement et avec un taux d'accroissement de 9,4 qui n'avait jamais été atteint avant. Aussi, les écoles commençaient à s'équiper petit à petit en bancs pupitres en suivant, n'est-ce pas, les mots d'ordre du ministère. Voilà un peu, d'une manière ramassée, les quelques points positifs qui m'ont marqué.
Avez-vous enregistré une déperdition scolaire dans votre secteur? Si tel est le cas, cela est dû à quoi?
Oui, la déperdition est importante dans la province de Tanganyika 2. Je dirais là où même c'est gratuit, c'est-à-dire au primaire, hein, les épreuves certificatives étaient gratuites au niveau du cycle primaire, mais il y a eu 5% de déperdition, vous voyez? Ça nous fait très mal au cœur. Hein. Au niveau du TENASOSP, plus de 3000 candidats qui ont été inscrits n'ont pas répondu présent à la passation. Et ce n'est pas tout. Au cycle long, à l'examen d'État, on a déploré plus de 1200 candidats inscrits, mais qui étaient absents. Mais cela est dit à quoi? Beaucoup de parents n'ont pas encore compris qu'ils doivent envoyer les leurs à l'école. Et les enfants s'adonnent à la pêche, ils s'adonnent au mariage précoce, ils sont dans les travaux champêtres, et il y en a, comme à Manono, qui sont dans l'exploitation artisanale des minéraux. Voilà un peu les quelques causes que j'ai pu évoquer à ce sujet.
Y a-t-il eu des difficultés au cours de cette année auxquelles vous avez pu faire face?
Les difficultés auxquelles nous avons eu à faire face se rapportent à l'inaccessibilité de certaines écoles à cause des mauvais états de route d'une manière générale. Le manque de route est un handicap pour mes inspecteurs qui sont appelés à sillonner les écoles pour qu'ils se rendent compte de la qualité de l'enseignement. Et ils se plaignent par le fait que leur plan trimestriel d'activité souffre beaucoup. Ils prévoient de mener des activités pendant 3 jours et faute de route, ils passent une semaine. C'est comme ça qu'ils connaissent un retard dans les reproductions. À cela, il faut ajouter l'insécurité. Mes inspecteurs sont souvent victimes d'agressions quand ils parcourent des zones où la sécurité n'est pas de mise.
Est-ce que les inondations ont eu des conséquences sur l'année scolaire qui vient de s'achever?
Les inondations des mois de mars et avril dernier ont fait des dégâts énormes, si bien que certaines écoles ont été délocalisées et cela a servi d'alibi à certains parents pour retirer leurs enfants, surtout ceux de l'école primaire. Pour eux, cela ne pouvait pas parcourir 500-600 mètres qu'ils continuent avec les apprentissages. Et pourtant, nous n'étions qu'à quelques 2-3 mois de la fin de l'année. Hein, ils ont préféré retirer les leurs en dépit de nos nombreuses sensibilisations.
Monsieur Paul Pakou, je vous remercie.
Voilà, c'était là l'inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 2. Il s'entretenait avec Paulin Munanga. Par ici, prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Irung Mouchinge à la mise en onde Mimi Kindou. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.